Bonjour, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'heure de l'hebdo. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Besancenot, membre du NPA, auteur avec Michael Lowy de Septembre Rouge, le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili, qui est un livre qu'on pourra trouver aux éditions textuelles, et Rodrigo, qui est animateur de l'émission Terremoto, diffusée tous les lundis à 21h30. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Sur Fréquence Paris Pluriel.
Oui,
évidemment. C'était évident.
Alors, je lis quelque part que commémorer n'est pas célébrer, mais faire savoir qu'un fait n'a rien de ponctuel et que ce qui n'était su que des milieux militants fut une réalité tragique dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Septembre Rouge revient sur un fait. Les matins du 11 septembre 1973, avec le soutien de l'administration Nixon et de la dictature brésilienne, les différentes branches des forces armées se soulèvent. La gauche, la population, se trouve à désarmer tant sur le plan politique que sur le plan militaire. L'expérience sociale pour l'émancipation, expérience commencée 3 ans avant par l'élection de Salvador Allende à la présidence du Chili, prend fin dramatiquement. Alors, la première chose, c'est dire que à travers les livres Septembre Rouge que tu as coécrit avec Michael Lowy, et vous rendez hommage aux combattants et combattantes connus, mais aussi des anonymes, qui ont défendu Salvador Allende et l'expérience démocratique vers le socialisme lors du coup d'État. L'écriture est quasi cinématographique, me disait Laure, que c'était la première à lire le livre. Et bon, après l'avoir lu, je suis d'accord avec elle. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur un film de documentation fiction. Alors, mais pourquoi avoir choisi ces formes, la forme d'un récit fictionnel?
Ben, en fait, on ne savait pas ce qu'on écrivait en fait, avec Michael. On est parti dans la volonté de faire quelque chose de singulier pour rendre hommage, en effet, à tous les combattants et combattantes qu'on luttait à ce moment-là et durant les années suivantes, sans faire ce qui a déjà été fait et qui continue à être fait, et souvent bien fait, c'est-à-dire des essais historiques, des essais théoriques. Et il y a d'ailleurs un renouveau des travaux au Chili, avec une nouvelle génération aussi qui travaille là-dessus. Donc nous, on voulait le faire de manière différente, avec une sorte de mise en scène où, en effet, on a travaillé pour que des dizaines de protagonistes, connus ou inconnus, eh bien, on les plonge dans situations et dans des situations qui ont réellement existé, mais en s'autorisant une sorte de liberté. Donc on ne savait pas ce qu'on faisait, et ça s'appelle en effet un docu-fiction, donc j'ai appris ce terme-là. Voilà. C'est le fait de mettre un peu en scène, en effet, des actes, des événements qui ont réellement existé, mais avec, sur la chronologie, l'interprétation, et puis notre vision des choses, une subjectivité. Ça, c'est la formule de Michael, il aime bien dire que c'est notre subjectivité qui souligne aussi la subjectivité des événements.
Alors, un des livraires, dans la présentation de Septembre Rouge, parle des coups d'État pour tous.
Oui.
Mais ce n'est pas du tout dans le sens ironique.
Ouais.
Il pense que c'est dans des éléments, des successions, des faits.
Bah, c'est une manière de raconter qui permet peut-être de s'adresser plus largement que les milieux habituels. Enfin, on ne l'a pas fait d'abord pour ça. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'en le faisant, ça permet, même pour moi qui suis militant, et puis pour Michael qui l'est aussi, de comprendre les événements différemment. Parce qu'en incarnant un récit, on essaye précisément de s'introduire dans les séquences quotidiennes de chacun et de chacune. Donc du coup, de s'introduire dans des espérances, dans des illusions, dans des doutes au quotidien, et même parfois heure par heure, voire minute par minute, quand on prend évidemment la journée du 11 septembre. Donc ça a permis de sortir un petit peu des conceptions un peu habituelles, ou pour faire vite et un peu caricaturales. Nous, dans notre courant politique, le courant kelmien, qui est pourtant un courant politique marxiste ouvert, on va dire ça comme ça, et pas sectaire, il y avait quand même cette vision que ce qui s'est passé là-bas, c'est d'abord et avant tout l'exemple du réformiste président Allende, qui était certes tout à fait honnête, mais qui a refusé de distribuer des armes. Et voilà. Et du coup, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe. Et le fait d'incarner les récits, ça permet de toucher au plus près, justement, la complexité d'une situation, en fait.
Est-ce que ça serait par rapport à un effet domino, comme ça l'a été avec toutes les dictatures qui ont suivi? Parce que ça, bien avant même le Chili, ça avait déjà commencé. Donc,
Alors il y a ce contexte-là qu'on évoque par le biais de la participation brésilienne en particulier. Mmh. C'est-à-dire il y a les dictatures qui ont eu lieu avant, celles qui existeront après, et puis l'idée que là-dedans, il y a en effet, bon mais ça c'était un secret de Polichinelle, mais il y a encore des documents déclassifiés qui sont sortis là, des États-Unis visiblement récemment, je crois que c'est Mediapart qui les a relayés, il me semble, il faudra vérifier. Ce qu'on savait, c'est-à-dire l'implication directe des États-Unis, qui n'est pas simplement une implication économique où ils ont inondé de dollars l'opposition à Allende, mais une implication politique, justement, de toute cette séquence-là. Donc, en fait, il y a deux types de conclusions. C'est que d'abord, même les dictatures militaires, c'est-à-dire l'extrême droite, s'affranchit des frontières. Elles se coordonnent au-delà des frontières. Donc, nous, on a une responsabilité pour s'affranchir aussi des frontières si on cherche à raisonner pour aujourd'hui. Et que deuxièmement, l'impérialisme américain ne voulait pas de cette expérience singulière, qui était vraiment... Et par exemple, Michael, lui, ça le travaillait beaucoup dans l'écriture de cette expérience singulière qui était celle du Chili, c'est-à-dire la volonté d'aller vers le socialisme de manière pacifique, c'est-à-dire institutionnelle, sans guerre civile préalable, mais d'aller vraiment vers le socialisme. C'est-à-dire que quand on prend le programme politique électoral même d'Allende, il y a de quoi donner des grandes sueurs à tous les programmes, même des organisations de la gauche révolutionnaire en France, parce que c'est très radical. C'est vraiment la volonté d'aller vers le socialisme. Alors, avec une part d'illusion, ça, c'est les discussions. Mais nous, de toute façon, on a voulu insister sur le thème que notre but, c'était pas de se substituer aux Chiliens et aux Chiliennes dans ce travail-là, même si notre solidarité va d'abord aux différentes organisations et militants révolutionnaires qui étaient présents à ce moment-là.
Alors, évidemment, la question... qui arrive, c'est là, puisqu'on est 50 ans plus tard, quel travail de mémoire règne au Chili à cette date anniversaire, alors que l'extrême droite domine dans la nouvelle Assemblée constituante en tenant des discours négationnistes sur le coup d'État. Mm-hmm. Rodrigo ?
Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, même si je ne suis pas un sociologue pointu, c'est que c'est une conséquence par rapport à tout ce qui s'est passé à travers l'histoire de cette Amérique, et je parle de l'Amérique latine en particulier. Et je voudrais par contre spécifier qu'aujourd'hui, il faut bien dire États-Unis, États-Uniens, et parce qu'Amérique, ça correspond à tous les pays américains qui sont le Chili, l'Argentine, tous les autres. C'est juste pour une parenthèse, parce qu'en Amérique tout entière, on fait bien la différence entre ce que c'est les États-Unis et les autres pays latino-américains. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que dans l'histoire, ce fascisme, s'il est monté, ça a été aussi une conséquence de pas mal de luttes qui n'ont pas également abouti et que également la gauche est là de quoi aussi se faire pas une autocritique, mais revoir aussi un peu son histoire par rapport aux autres choses qui se sont produites dans d'autres pays aujourd'hui qui ont donné une mauvaise image aussi de cette... comment on pourrait dire, une mauvaise image. C'est pas vraiment aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois le Nicaragua par rapport à ça. Et je vois que l'image que ça renvoie, c'est pas une très bonne image de ce qu'on aurait pu, en même temps, faire à une époque donnée. C'est vrai que avec Cuba et le Chili, à un moment donné, dans les années passées, les États-Unis, ils ont eu peur d'un changement radical qui aurait pu se passer en Amérique latine et ça aurait pu être un effet domino à l'envers cette fois-ci, c'est-à-dire faire en sorte que tous les autres pays latino-américains suivent. Et c'est ce qui aurait pu se produire. Parce que là, c'était par une voie démocratique au Chili que ça se produisait différemment à Cuba. Cuba qui a quand même été aidé à l'époque par les États-Unis pour battre Batiste. Ça, pour les gens qui s'y connaissent, ils le savent. Mais parce qu'ils pensaient qu'en étant... fidèles et tout ça, ils allaient récupérer encore Cuba pour eux, quoi. C'était un peu l'idée. Fidel et Ladino, bon, ils ont eu un peu le revers de l'affaire. Après, on a le Chili qui part dans une voie démocratique, par la voie démocratique et des élections, arrive à faire un certain changement, alors que même s'il a été élu avec juste aussi, comme il s'est passé dernièrement avec Boric, au niveau des élections... qui ont pu mettre Boris comme président. Il est vrai que à cette époque-là, les changements de 73 venaient fort, enfin de 70 à 73, hein. Ça commençait à bouger énormément. Ça a fait peur, comme ça le fait toujours, hein, pour tout ce qui est cette oligarchie, tous les pouvoirs, tous les, comment dirais-je, les pouvoirs économiques, les entreprises qui sont à la fois externes et beaucoup étaient externes, puisque beaucoup appartenaient aussi aux États-Unis. C'est ce qui a a permis aussi aux États-Unis après de commencer à se dire non, non, là, on va pas lâcher ça, quoi. C'est pas possible. On va, comme on peut dire un exemple, on peut faire le lien avec l'Afrique aujourd'hui. Si aujourd'hui en Afrique, il y a des coups d'État qui se succèdent de manière un peu pour le peuple ou pas pour le peuple, parce que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe maintenant en Afrique. Il est vrai qu'on pourrait comparer ces phénomènes, parce que la différence, c'est que les pays latino-américains, ils ont eu l'indépendance plus tôt que l'Afrique. Donc, si on avait regardé un peu plus en arrière ce qui s'est passé en Amérique latine et voyant ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, on aurait pu faire un parallèle et se dire, attention, il va se produire plus ou moins les mêmes choses. L'Amérique latine a un pouvoir là-haut qui est les États-Unis et même le Canada, mais lié avec l'Occident. Et ça, c'est toujours fait. Ça date de même on peut dire
1492.
Par rapport au Chili. Voilà, à partir de 1492, tout a commencé. Mais par rapport au Chili, au niveau de l'indépendance, c'est déjà en 1818. Et ça, j'ai pu m'informer. On m'a informé et on l'a passé lundi dernier dans l'émission. C'est que là, il y a eu un revers de la médaille par rapport à ceux qui voulaient être indépendants, mais aussi prendre le pouvoir pour créer une autre forme de démocratie au Chili. Par rapport aux Espagnols. Mais ça aussi, ça s'est retourné contre eux parce que c'est l'oligarchie chilienne qui a pris le pouvoir en place pour maintenir quelque chose et également très fascisante parce qu'à partir de 1818, les militaires chiliens, enfin, l'armée chilienne, a commis énormément des crimes.
D'exactions.
Et d'après ce que j'ai pu lire, il y en a eu 23 dans l'histoire du Chili jusqu'en 1973. Et c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit dans aucun autre pays latino-américain. Pas pour dire qu'on a le vent en poupe par rapport à ça, mais c'est juste montrer à quel point le pouvoir, déjà, il était un peu fascisant, et même beaucoup. Et ça l'est devenu de plus en plus. Aujourd'hui, on trouve des gens qui sont même arrivés après la guerre de 39-45 également, qui ont ramené même le nazisme, quoi. Ça, c'est pas seulement un fascisme qu'il y a, mais également le nazisme. Tout ça avec également le lien de la droite internationale, économiquement parlant, et les multinationales, États-Unis, Canada et tout l'Occident, qu'est-ce qu'on appelle l'Occident ? C'est la France, l'Espagne, enfin tous les pays d'Occident même, qui ont permis également tout ça. Et qu'après, des fois, ils se lavent les mains comme Ponce Pilate, quoi. Normal. Ils ne veulent pas se montrer comme si eux, ils ont fait part de tous ces mouvements qui se produisent au niveau des dictatures et des problèmes économiques qui se produisent. Mais ce sont des problèmes économiques, si on peut dire, qui vont toucher surtout les multinationales, surtout, et que ça leur plaît pas. Donc, en même temps, je pense qu'ils mettent en place toujours des politiques assez réac pour pouvoir faire un front à ces mouvements qui veulent changer le monde, qui veulent changer aussi leur mode de vie. Parce qu'on a également, il ne faut pas oublier que dans les pays latino-américains, il y a des peuples qui étaient déjà là avant même l'arrivée des Espagnols, qui avaient une manière de vivre en communauté et qui correspond à ce qu'on appelle aussi le communisme, quoi, d'une sorte. Donc ça c'est entré au niveau philosophique avec l'Occident, ça a été une sorte de choc. Ça, si on le comprend bien, on peut comprendre aussi ce choc culturel et philosophique. Et même économique. Mais c'est aussi, comme beaucoup d'Européens, ils ont appris aussi qu'il y avait d'autres façons de vivre. Même en Europe, il y a des gens qui se sont battus aussi pour qu'on puisse laisser plus libre cours à ces peuples aussi une certaine autonomie, qu'ils puissent vivre aussi autrement. Mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas trop vu, même si dans certains cas, on a fait un travail pour. Aujourd'hui, je viens de me rendre compte qu'au Brésil, les Indiens, ils ont gagné une bataille au niveau de l'Amazonie. Et là, j'étais hyper ému. Et là, je suis encore ému. Pardon. Parce que c'est des peuples qui ont trop souffert. Et je suis désolé, mais c'est bon. L'émotion bonne. Hein. Je suis content de savoir qu'ils ont réussi quelque chose.
Ouais. Oui, tout à fait.
Et contre le fascisme brésilien aussi, quoi.
Ouais. Olivier, sur justement...
travail de mémoire.
Sur ce travail de mémoire que Rodrigo a commencé à faire, est-ce que tu sais un petit peu comment les Chiliens, là, en septembre 2023, se sont rappelés de tout ce qui s'était passé, de toute leur histoire, et comment ils ont revécu ce coup d'État, comment ils s'en sont rappelés?
Ben, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je suis
pas... Tu n'y étais pas
Si, j'y étais. J'y suis allé pendant 8 jours et c'était 8 jours intenses, bouleversants, avec une situation politique super compliquée, en effet.
Il y a un clivage. Hein.
Avec un clivage. Une polarisation très forte, avec une base sociale historique, comme tu dis, du pinochétisme qui a fait quand même 45% des voix aux dernières élections présidentielles, même quand Boric est passé, et qui, dans ce processus chaotique qui est celui de la convention... pour une nouvelle constitution, s'est emparé de cette convention. Donc là, on est dans le pire des moments. Ça, c'est les témoignages que j'ai eus sur maintenant, où il y a eu cette immense révolte pleine d'espoir de 2019. Et là, la situation, c'est dans quelques semaines de devoir choisir entre une constitution produite par une convention dirigée par l'extrême droite, c'est-à-dire une constitution d'extrême droite, ou alors le retour à l'ancienne constitution militaire, c'est-à-dire une constitution d'extrême droite. Donc évidemment, c'est la pire des situations, mais en même temps, c'est pas possible que 2019 n'ait produit que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que la situation, elle reste ouverte. Donc moi, ce que j'ai pas assisté à la polarisation, elle est visible dans les quartiers. Parfois, il y a une forme d'indifférence dont faisaient part des Chiliens, des Chiliennes qui étaient heurtés du fait qu'il y avait pas plus, puisque la mémoire c'est d'abord un sujet de bataille politique. Mais moi, ce que j'ai senti, vu de France, c'est quand même d'abord une effervescence qui est toujours présente de 2019 qu'on sent dans de manière diffuse dans plein de réseaux syndicaux, politiques, féministes, avec un mouvement pour le droit des femmes qui est quand même très important. Il y a eu, par exemple, j'ai assisté à une manifestation de femmes le 10 septembre au soir, autour de la Moneda, où était retransmis sur des grandes enceintes le dernier discours d'Allende que vous connaissez évidemment probablement, et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller y avoir accès. Il est disponible sur Internet, qui est un discours bouleversant, évidemment, qui est très digne en même temps, et qui était projeté comme ça, et donc dans le noir, on a l'impression que ça sortait de la Moneda, donc c'était... et tout le monde se figeait, et en même temps, donc il y avait de la dignité, il y avait beaucoup, beaucoup de dignité. Et moi, ce qui me marque, c'est Vue de France, parce que l'histoire chilienne, cette histoire chilienne-là, cette histoire politique, elle fait partie de notre histoire politique à gauche en France. Il y a des générations et des générations entières qui ont été marquées par ce qui s'est passé, avec des exilés, de nombreux exilés, leurs enfants aussi. Dans le livre, par exemple, avec Michael, on a réintroduit... Alors, dans la chronologie, c'est un peu folklorique parce qu'on lui a tout fait faire en une journée. Alors, quand elle était, ça s'est étalé sur des jours, voire des semaines. Mais on a voulu rendre hommage à Elena. Elena, c'était la libraire la libraire de La Brèche, qui est notre librairie, qui était la librairie de la Ligue communiste révolutionnaire et qui est celle du NPA, qui était quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Son fils, Andrés, avec qui on a fait je ne sais combien de fêtes improbables. On pourra dire ça comme ça.
On a fait la révolution permanente avec lui. C'est dans ça.
La fête permanente aussi.
Ouais, c'est ça.
Donc, il y a quelque chose. Par exemple, juste pour prendre cet exemple, j'ai appris en bossant sur le livre que les comités de solidarité avec le Chili en France, ça a regroupé 500 ou 600 000 personnes. Ouais. C'est-à-dire, c'est une des plus grosses. C'est peut-être même la plus grosse structure unitaire de solidarité internationale qui existe en France. Donc, ce qui fait que l'histoire est venue jusqu'à nous. Et donc, il y a quelque chose qui cimente une partie de la gauche sur cette histoire-là, au-delà même des organisations. Et qui, j'espère, pourrait faire pousser la gauche d'aujourd'hui à réfléchir aussi sur ce travail de mémoire qu'on a à faire, nous aussi. Enfin, toute proportion gardée, parce qu'on n'a pas le même rapport à la tragédie des événements, évidemment.
Mais avant de faire la pause musicale, je voudrais quand même revenir avec cette filiation entre le mouvement d'octobre 2019 et ce qui s'est passé, la résistance qui a suivi le coup d'État de 1973, c'est par rapport notamment dans les populations, pas la population, dans les populations, dans les quartiers. On a vu qu'en 2019, se sont réactivés ou bien se sont réinventés de ces structures de haute organisation comme les cordons industriels, inspiration des cordons industriels, les cordons de distribution, ils sont quand même été réactivés à ces moments-là.
Oui, je pense qu'il y a des réflexes collectifs, de toute façon, quelles que soient les singularités des pays, qui restent. Et même quand on pense que c'est parti complètement dans le sable, ça ressurgit. Et en 2019, la mémoire des générations vaincues a ressurgi. Il y avait des portraits d'Allende, il y avait les couleurs rouge et noir du MIR, qui est une organisation de la gauche révolutionnaire qui avait été dirigée notamment par Miguel Enriquez, qui a été dissoute depuis, qui a disparu officiellement, même s'il y en a qui continuent à se revendiquer. Et puis, il y a ces réflexes d'auto-organisation qu'on ressurgit aussi. Donc comme tout processus politique, quand je parle de la gauche en France, on devrait s'intéresser de plus près à ce qui se passe au Chili aujourd'hui, parce que c'est la première fois, ou en tous les cas, ça fait longtemps de mémoire, qu'une révolte aussi massive, puisque en 10 ans, il y en a eu des révoltes de masse un peu partout dans le monde, mais c'est la première fois qu'une révolte commence à produire un premier effet politique qui ne soit pas simplement l'élection. Parce que souvent, on dit que c'est l'élection de Boric. Non, ça a un effet probablement différé. Mais l'effet qu'il y a eu, c'est d'avoir la peau potentiellement de la Constitution, de l'ancienne Constitution de la dictature militaire. Ça a produit une convention dans laquelle les secteurs les plus mobilisés de 2019 étaient arrivés en tête. Ça avait surpris d'ailleurs tout le monde. Malheureusement, entre le confinement, le temps long, cette convention a d'abord, ce projet de constitution a été rejeté par référendum, et depuis, l'extrême droite a repris la main. Mais on est toujours dans cette bataille, et cette bataille, je pense qu'elle reste toujours ouverte. Et du coup, ça devrait, par exemple, le processus constituant, c'est quelque chose qui se réinvite dans le décor politique au niveau mondial. Et du coup, entre ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut, qui est aussi un jeu de contradictions, comme en 73, parce qu'il y a Franck Godichaud, qui est un historien là, qui a écrit plusieurs livres, qui insiste pour parler de révolution chilienne. Et moi, je pense que c'est super important de comprendre que de 70 à 73, c'est bien une révolution chilienne qui a eu lieu avec un peu de réforme, un peu de révolution, parfois la réforme qui prend le dessus sur la révolution et vice-versa, que tout ça, c'est un processus.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et à l'écoute de l'Hebdo. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Biosancenot, auteur avec Michael Louis de Septembre Rouge, le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili aux éditions textuelles, et Rodrigo, animateur de l'émission Terremoto, diffusée tous les lundis à 21h30, bien sûr, sur FPP. Tu nous dis un petit mot de ce qu'on a entendu, Rodrigo ?
Moi, ce que je voulais dire surtout aussi, c'est que ce coup d'État qu'il y a eu au Chili en 73 ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au Venezuela à un moment donné avec Chavez. Mm-hmm. Et parce qu'ils ont fait de la même manière. Pour, pouvoir le mettre, faire de la mauvaise pub par rapport à Chavez en disant que c'était un dictateur et tout ça, alors qu'il avait été élu démocratiquement, encore une fois. Mais encore une fois, ils n'ont pas aimé qu'il y ait des changements qui se produisent au niveau à la fois politique, mais économique, parce qu'il avait aussi nationalisé le pétrole. Donc dès que tu commences à nationaliser, ça ne le fait plus.
Ça va pas.
Et par rapport à la musique ?
Ah, la musique, c'est une belle chanson, parce que c'était par rapport à la musique.
Oui, mais c'est pas que...
La musique, ça,
tu pouvais
ça,
dire les deux.
Non, la musique, ça parle des étudiants, et c'est vrai que le mouvement étudiant au Chili, en Amérique latine ou ailleurs, même en France, parce que c'est là les rapports qui sont très proches aussi, et on peut faire les liens. Ils ont beaucoup lutté déjà à cette époque, mais ils l'ont fait aussi en 2019, quoi, qui a permis, et en plus c'était des collégiens qui ont permis à que tous les autres suivent et qu'ils se rendent compte que là, c'était le moment aussi de dire à un moment donné stop, quoi. C'est dommage qu'après ce mouvement de 2019, malgré tout, avec la nouvelle constitution, ça n'a pas abouti comme ça aurait dû aboutir pour qu'on puisse à la fois tourner la page et voir quelque chose de pas nouveau, mais quelque chose qui aille de l'avant, quoi, surtout.
Mais l'histoire n'est pas finie.
Non, voilà, c'est ça. Il reste des choses à écrire, là.
Juste avant la pause musicale, on a parlé donc de deux éléments majeurs qui apparaissent dans le livre. Ce sont les cordons industriels, dont tu as commencé à parler, et Miguel Enriquez, dont tu as commencé aussi à parler. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais revenir sur ce qu'étaient les cordons industriels, leur rôle avant, pendant et après le coup d'État ?
Bah, les cordons industriels, en fait, c'est des assemblées de travailleurs et de travailleuses dans les entreprises qui ont été, là je parlais de Franck Godichaud par exemple, lui ça a été son sujet de thèse, qu'il a vraiment épluché de quasiment au cas par cas l'exemple, la vitalité politique des cordons industriels, notamment sous l'Unité populaire, puisque c'est évidemment dans ce processus-là que les cordons industriels se sont développés, en particulier dans les banlieues populaires de Santiago, et qu'ont regroupé des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses. Bon, après, il y a des estimations parfois différentes, puis de toute façon, c'est fluctuant. Donc, comme tout est processus, c'est pour ça qu'on parle de révolution chilienne, quand dans le livre, par exemple, ça commence très mal et puis ça se finit aussi très mal, mais pour autant, ce n'est pas larmoyant. Nous, on commence dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec une réunion de Nixon et de Kissinger et puis d'autres conseillers qui décident d'emblée d'aider toute l'opposition à Allende pour faire tomber par tous les moyens nécessaires Allende. Donc, ils ont d'abord tenté la méthode institutionnelle, puisqu'en effet, Allende était arrivé, je ne sais plus qui le disait, mais il arrivait en tête des élections présidentielles, mais il n'avait pas de majorité au Parlement. Ouais, donc, ils ont d'abord cherché à le destituer, ils n'y sont pas arrivés. Et puis, ensuite, il y a eu la phase économique où, en octobre 72, là, il y a eu la fameuse grève des patrons camionneurs où l'oligarchie chilienne, aidée toujours par les États-Unis, a organisé le lockout économique. Sauf que ça a eu une incidence sur la base de la révolution chilienne et notamment dans les cordons industriels, puisqu'il fallait bien vivre, d'où les comités d'approvisionnement, d'autorégulation des prix, parce qu'il fallait se nourrir dans les quartiers, dans les poblaciones, il fallait organiser la vie des entreprises. Et puis, dans les entreprises, il y a eu de plusieurs assemblées qu'on dit, puisque le patron décide de fermer l'entreprise, on va faire tourner l'entreprise nous-mêmes.
Exactement. Et les ouvriers demandaient à Allende à l'époque.
Exactement, que les entreprises.
Leur donnait le feu vert aussi.
C'est ça. Ouais. Et il y en a eu beaucoup. C'est-à-dire que ce qu'on appelle. Enfin, je dis que je joue le pensant, mais en fait, tout ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. c'est ce qui était donc l'ère de propriété sociale. Ces entreprises qui ont été nationalisées, on pourrait dire ça comme ça, par le programme d'Allende. Bon, il faudra vérifier les chiffres, mais je crois que c'était moins d'une centaine qui étaient promise à la nationalisation par Allende, et au final, sous la pression de la base, des cordons industriels, il y en a eu quasiment 300, avec des débats sur ce que c'est qu'une entreprise qui passe sous l'ère de la propriété sociale. Est-ce que c'est des administratifs envoyés par le gouvernement ou par le haut du syndicat, ou est-ce que c'est le fruit des assemblées ? Donc, il y a par exemple dans le documentaire, un des plus connus de Guzman, La bataille du Chili, des scènes tout à fait incroyable, quoi, parce qu'on a l'impression d'y être, c'est des images d'archives de l'époque, où on voit même un dirigeant du syndicat se faire vilipender par une partie de la base. Mais là aussi, c'est pas forcément caricatural, c'est-à-dire les cordons étaient pris aussi dans leur contradiction. Tout le monde voulait que ça aille plus loin, ouais. Et en même temps, personne voulait la destitution d'Allende. Donc c'était une espèce de relation parfois qui tournait à « je t'aime moi non plus », mais qui est aussi la complexité... la complexité super intéressante de ces ces structures d'auto-organisation qui sont restées dans la mémoire collective.
Je pense qu'on peut des fois faire une comparaison à ce qui s'est passé ici en France avec l'Unité populaire ici aussi, quoi, enfin, à l'époque avant 1939. Le Front Populaire. Mmh. Moi, j'ai dit unité populaire, mais c'est le Front Populaire. En Chili, c'était l'unité populaire.
Le Front Populaire, c'est la version française.
Vous l'avez fait avant. Nous, ça a été après au Chili. Mais on peut comparer des fois parce qu'ils ont fait aussi des cordons aussi, dans le même.
Alors, il y a eu dans le Front Populaire, dans les années, en 1936, il y a eu une grève générale qui était massive avec occupation d'usines.
Voilà.
Avec des structures d'auto-organisation, mais je crois moins organisées sur le long cours que ce qu'on a pu voir au Chili. Alors après, les proportions n'étaient pas les mêmes. Et puis, un rapport qui n'est pas forcément. Par exemple, toute comparaison est limitée à ses points d'avantage et ses inconvénients. Mais par exemple, le Front Populaire, contrairement à ce que les gens pensent, par exemple, les congés payés ne figuraient pas dans le programme électoral du Front Populaire. Mmh. C'est vraiment l'irruption de la grève générale qui a été telle qu'elle a failli faire perdre le pouvoir aux capitalistes de l'époque et qui fait que les capitalistes de l'époque étaient bien contents à l'époque de trouver le gouvernement de Front Populaire pour lâcher et céder beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, le point commun, c'est le rapport justement dialectique, pour sortir les grands mots, entre un processus électoral et un processus de lutte, de lutte sociale.
Les cordons industriels, bon, ils ont lutté pendant le coup d'État, on le voit dans le livre, mais après, ils n'ont jamais pu. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Ils ont été décimés, évidemment, comme toute l'opposition. Là, c'est là où ça doit nous faire quand même cogiter sur le thème que. Enfin, là, c'est l'avantage et l'inconvénient d'être extérieur à une période et à un pays. Mais ce qui est tout à fait troublant, c'est le point commun des différents témoins de l'époque qui ont participé, quelle que soit leur orientation politique, c'est que tout le monde savait que ce coup d'État allait arriver. Et pourtant, tout le monde a été pris de court, désarmé, comme tu disais, politiquement et militairement, alors que tout le monde savait. Et là aussi, il y a une multitude d'explications à ça, mais les cordons industriels, comme l'ensemble de toute forme d'opposition sociale ou politique à la junte, a été décimé. Et c'est toujours la même méthode de l'extrême droite. Ça, c'est la longue histoire qui nous le dit, c'est que l'extrême droite, quand elle est en situation, elle utilise une brutalité qui est pensée, qui est réfléchie, qui tétanise. Là, par exemple, quand j'étais à Santiago sur les commémorations, il y avait par exemple une grosse délégation de militants et de militantes brésiliennes, puisqu'il y avait une communauté brésilienne qui fuyait le coup d'État et qui était présente dans l'expérience de l'unité populaire et qui a payé le prix cher, certains et certaines se sont retrouvés au stade, etc. Et là, il y a encore ce travail juridique qui continue à être fait. Et par exemple, une militante me disait que son père, qui avait disparu, on a retrouvé ses ossements récemment, et il y a un procès pour une fois des militaires qui se tient, elle a toujours pensé qu'il avait été uniquement dénoncé par ses voisins. Et en fait, il a été dénoncé par ses voisins, mais il était déjà dans une blacklist, dans une liste noire. C'est-à-dire que des mois auparavant, une partie de l'oligarchie chilienne pensait déjà à ce qu'on devait éliminer. Et donc la dénonciation du voisin, c'est l'opportunité qui permet d'arrêter. Mais je veux dire, tout ça est pensé, planifié. Et le fait de tétaniser une opposition en la violentant par tous les moyens nécessaires, c'est une stratégie qui est vieille comme les années 30 en Allemagne. Ça, c'est tout à fait troublant. Donc les cordons industriels, nous, on raconte une scène qui a été importante, celle du 11, qui se réalise notamment dans une usine où il y avait des cordons industriels, qui est l'usine d'Indoumet, et où il y a un contact qui est pris entre le parti socialiste chilien, le parti communiste et le MIR pour essayer d'organiser la résistance. Et c'est une réunion qui projetait, entre autres, d'envoyer une colonne armée pour exfiltrer Allende de la Moneda et l'emmener dans la banlieue sud de Santiago pour organiser la résistance. Et Allende refuse. Et là aussi, c'est recoupé historiquement. Miguel arrive à joindre par le biais de Tati Allende, qui est la fille de Salvador et qui était très à gauche. Et là, Allende dit à Miguel que maintenant, c'est son tour. Donc là aussi, c'est en termes de relations complexes entre un réformiste... Oui. Et des révolutionnaires. Et en fait, c'est tout le long, pour le coup, entre les révolutionnaires et les... C'est avant l'unité populaire, pendant l'unité populaire, et même pour organiser la résistance, qu'il y a ces relations qui sont complexes, mais qui sont en réalité très, très reliées et empreintes d'un immense respect mutuel, par exemple.
Oui, c'est très important, mais surtout par rapport au cordon industriel, et sans jouer un rôle important en 73, mais... Dans 73, c'est global, parce qu'il y a eu déjà une première tentative à des coups d'État en juin 73, où les cordons industriels, pratiquement, c'est eux qui sont empêchés. Et c'est ce qui sont empêchés que c'est
que ça se produise.
C'est le temps casse ou aboutisse. Mais en même temps, les corps industriels, ils avaient une différence par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure des fronts populaires. C'est quand même une prise en main de la politique.
Oui.
Parce qu'ils sont adressés des messages au gouvernement, à Yende, en disant qu'ils avaient entièrement la confiance à eux. Mais ils disaient, vous savez qu'il va y avoir un coup d'État, il faut nous préparer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et disons, il faut arrêter d'essayer de concilier. Ça veut dire, il y avait une prise en charge politique de la situation, quand même. Bon, c'est tout.
Ah oui, mais clairement, il y a une politisation très très forte dans les cordons industriels. C'est pour ça que je parlais de cette scène du documentaire de Guzman, parce que là, on le voit, c'est un degré de politisation qui est incroyable, mais qui est typique dans ce genre de situation révolutionnaire où il y a une échelle de masse, il y a une irruption sur le devant de la scène sociale et politique, où les gens prennent conscience et décident de discussions qui sont éminemment stratégiques et éminemment politiques. C'est-à-dire qu'il y a deux questions stratégiques qui sont traitées dans les cordons industriels, c'est-à-dire dans les assemblées générales, et c'est loin des assemblées générales qu'on peut avoir en ce moment dans les entreprises en France, qui sont les questions de propriété, publique ou pas, et les questions de résistance armée, c'est-à-dire de violence dans un processus de transformation révolutionnaire. Ces deux questions stratégiques majeures et qui étaient discutées en acte, j'allais dire, par la base. Donc, en effet, c'était... Et d'où la réaction, c'est-à-dire cette première tentative de coup d'État avorté qu'on aurait pu imaginer, en effet, comme juste un coup d'État manqué. En réalité, ça a permis aux militaires de peaufiner leur stratégie pour le coup suivant et de désarmer en utilisant la fameuse loi sur les armes qui était initialement prévue pour autre chose dans l'unité populaire, qui était précisément plutôt prévue pour désarmer les organisations d'extrême droite. Et pendant tout l'été, les militaires font le tour des cordons industriels pour perquisitionner, prendre les armes, c'est-à-dire ôter la possibilité aux cordons industriels de, le jour venu, de pouvoir se défendre.
À l'autre aspect que Laure t'a évoqué sur les résistances, c'est ELMIR, le mouvement révolutionnaire. Alors, de quelle manière Miguel Enriquez, qui a été un des leaders de la résistance au coup d'État, va marquer la mémoire des Chiliens qui ont combattu Pinochet? Et est-ce que le mouvement d'izquierda révolutionnaire est devenu une référence pour les mouvements sociaux aujourd'hui? Et aussi, tu me montrais tout à l'heure qu'il y avait des liens, des discussions entre l'unité populaire et l'ELMIR. Comment s'est passé vraiment ce type de discussions stratégiques? Parce que l'ELMIR aussi a changé son stratégie en cours des routes.
Ah oui, c'est une influence mutuelle, absolument.
Voilà.
Il y a eu une influence sur Allende avant même son élection en 70, et il y a eu une influence sur l'ELMIR. C'est justement l'intérêt d'une relation dont j'essaie d'évoquer un peu la nature. Par exemple, quand Allende doit être élu en 70, bon, ça on ne le parle pas dans le livre, mais je l'ai appris... Plus récemment, il y a Andrés Pascal Allende qui va devenir le dirigeant du second MIR, on peut l'appeler comme ça, une fois que Miguel Enriquez est mort en octobre 1974, tué par les militaires et par la DINA. Il y a Andrés Pascal Allende qui raconte cette anecdote, entre autres, qu'avant 1970, Allende prépare une élection où on pense qu'il peut être élu. Allende, qui a quand même beaucoup d'affinités avec le MIR, va les voir. Le MIR, à ce moment-là, est dans la clandestinité, qui est une clandestinité qui ne sera pas de la même nature que sous la dictature. Mais le MIR a recours à des actions, alors je ne sais plus le terme officiel, c'est expropriation ou réappropriation. En gros, c'est des braquages de banque pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'organisation. Et les dirigeants, Miguel Enriquez, comme Andrés Pascal Allende, y participent. Et évidemment, Allende va les voir en leur disant « Calmez-vous, parce que ça va mettre toute la droite dans ses émois et ça va me porter préjudice. » Et en même temps qu'il fait ça, c'est Andrés Pascal Allende qui le raconte, il reçoit de son père, Andrés Pascal Allende, une boîte de chaussures. Il dit « C'est ton oncle qui te l'offre ». Il ouvre la boîte de chaussures et dans la boîte de chaussures, il n'y a pas de chaussures, il y a un Colt 45, magnifique,
c'est ce que je pensais, ouais.
Chargé, et avec un mot de son oncle qui lui dit, alors il ne se souvient plus de la formule exacte, mais il dit en gros, c'est ça la teneur, et il dit « Je ne cautionne pas ce à quoi ça va servir, mais s'il te plaît, sers-t'en bien voilà. ». Donc en fait, tu as... des anecdotes comme ça jusqu'à la fameuse protection rapprochée d'Allende au tout début de son mandat, c'est des miristes, des militants du MIR. C'est-à-dire, cette formule, tout le monde la connaît, qui est venue parce que le MIR faisait un travail dans l'armée et un travail d'information et était au courant, avant même l'élection d'Allende, qu'il y avait des projets d'attentats contre Allende de la part de l'extrême droite. Et donc, le MIR va prévenir Allende. Et Allende dit, dans ces cas-là, faites ma sécurité. Et donc, le début de son mandat, on voit en effet ces hommes armés autour de lui et un journaliste de droite qui existait à l'époque, comme il en existe encore aujourd'hui, dans une conférence de presse qui dit à Allende, mais qui sont ces hommes armés autour de vous qui, semble-t-il, ne sont ni des policiers ni des militaires. Lui, conscient de la polémique qu'il va créer, il dit « mais ce sont des amis personnels ». Voilà, et c'est comme ça que naît le groupe des amis personnels, le GAP, qui participera, comme on le sait, jusqu'aux derniers instants de la Moneda à sa protection. La protection à la fin sera assurée par des Hellenos, c'est-à-dire la gauche du Parti Socialiste qui avait participé à la guérilla de l'ELN avec le Che en Bolivie. Oui. Donc c'est pour ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand on dit le PS chilien...
Ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est difficile.
C'est difficile
même d'avoir une idée de la représentation. Ne pensez pas au PS en France, non. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'était le PS au Chili à l'époque. Non.
Et la mémoire de Miguel Enríquez, elle est encore vivante dans l'esprit des militants chiliens d'aujourd'hui, Rodrigo?
Des militants, je pense, mais du reste de la population chilienne, de la jeunesse même chilienne, une certaine jeunesse chilienne, pas du tout. Hein. Enfin, moi, ayant de la famille au Chili et tout... je me suis rendu compte que des fois, les propos tenus dans une classe populaire ça fait un peu mal, quoi. De voir après ces 50 ans, après le coup d'État, que pour certains, ils ont tellement voulu oublier par rapport aux atrocités et tout ça, et je peux comprendre. Hein. Mais en même temps, par rapport à tout ce qui s'est passé à l'époque au niveau des corridors industriels et tout ça, c'est vrai que ça fait un coup au niveau des masses populaires et la classe prolétaire, ouvrière, comme on peut l'appeler, surtout de l'époque, que ça les a appauvris intellectuellement et ça les a appauvris aussi au niveau d'avoir cette prise de conscience qu'ils auraient peut-être dû maintenir ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était, sous une dictature, c'est moins évident. Surtout quand on n'a pas les livres et qu'on appartient à la classe populaire où les moyens pour s'inscrire ne sont pas si évidents, surtout dans des pays où on doit tout payer. Et surtout là où la culture, elle était complètement... elle n'était pas là.
Réduite,
quoi.
Voilà,
on l'avait, on l'avait un peu...
À sa plus simple expression.
Et par rapport à ça, moi, je me suis rendu compte que quand on parle de cette époque-là, il y en a beaucoup qui veulent des fois oublier. Et des fois, même par rapport à la situation même des Mapuches également, qu'entre 70 et 73, il commençait à y avoir pas mal de changements aussi. Là aussi, les Mapuches ne sont pas très bien vus. Il y a eu tout aussi, je peux dire que c'est peut-être les médias latino-américains et même au Chili surtout, si je dis latino-américain, parce que ça se passe dans toute l'Amérique latine, ils ont beaucoup manipulé les populations. Et cette classe populaire aujourd'hui, il reste un travail à faire aussi par rapport à revenir à ce que c'était, ce qu'il vient de dire Olivier. Mm-hmm. De retrouver cette lutte politique bien ancrée qui aujourd'hui, peut-être ça va ressurgir. En tout cas, c'est ce qui a permis 2019, c'est de donner cet élan et qui vient des gamins, quoi, surtout. Chose qu'avant, certains pensaient, les gens du MIR et tout ça, que mon père, il a été militant du MIR. Et ce qu'il a dit par rapport au travail qu'il faisait avec les militaires, c'est vrai, il y a eu un travail, parce qu'à ce moment-là, ils sont devenus partie légale. Mais toute cette période dont il a parlé de travail avec les militaires, ça leur a joué ça a été en défaveur, quoi. Ça s'est retourné contre eux. Et juste pour dire par rapport aux masses populaires, là aussi ça s'est retourné après le coup d'État, parce que il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, les masses populaires, vraiment, et ça manque, il y a un travail énorme à faire pour que on puisse arriver à trouver cette lutte, prise de conscience politique et tout, de savoir où on est et qui nous sommes, quoi.
Alors, il y a quelque chose à la lecture du livre, qui, moi, personnellement, mais je suppose aussi Julia, nous a semblé complètement incompréhensible, c'est la confiance, l'aveuglement pratiquement, jusqu'à la fin, de Salvador Allende envers Pinochet. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer?
Ça, c'est mystérieux.
C'est peut-être une question naïve, mais franchement...
Non, mais parce que tout le monde se la pose. Alors après, il faut avoir l'humilité de penser qu'on pense ça avec le recul des événements et que c'est toujours plus facile quand on n'est pas en situation d'eux. Oui. Parce que ça avait des réfractions sur le MIR. Visiblement, le MIR, en fait, avant le coup d'État, enfin le coup d'État du 11 septembre, le deuxième, celui qui va aboutir, Allende est alerté du fait qu'un nouveau coup d'État se prépare. Il sait quasiment la date. Lui, son obsession politique, c'est d'éviter une guerre civile au Chili de la nature de celle qui a été la guerre civile en Espagne en 1936. Et lui, alors c'est là les limites du réformisme, en effet, c'est de penser qu'il peut le jouer par un coup politique, parce qu'il était réputé pour avoir de l'astuce. Même ses adversaires trouvaient qu'Allende avait de l'astuce, de la répartie, qu'il était même de la roublardise dans le bon sens du terme. Et donc, il joue un coup politique, et c'est donc le plébiscite. Il prévient les militaires qu'il va proposer un référendum, un plébiscite sur son nom pour éviter cette perspective de coup d'État et par tous les moyens nécessaires. Et donc, par le biais de Pinochet, on lui dit c'est une bonne idée, mais faut pas l'annoncer le 10 septembre parce que ça va braquer les autres. Il faut attendre le 11 septembre dans la journée pour l'annoncer. Or, le 11 septembre, à 6 heures du matin, le coup d'État commence. C'est même pire puisque ça, c'est documenté. On en parle le 11. Mais quand le coup d'État prend de l'ampleur et qu'il comprend que ça ne sera pas un deuxième Tancas, qu'il y a une grosse partie de l'armée qui est en train de se soulever, il dit à certains des siens dans le bureau présidentiel Allende à La Moneda, au moment où il est, le pauvre Pinochet doit sûrement être arrêté. Et juste après, il y a le communiqué qui tombe de la junte, signé entre autres par Pinochet. Et là, Allende, tout ça c'est documenté, hein, c'est pas inventé, tape des doigts sur la table en disant les traîtres. Et là, toute sa stratégie, à ce moment-là, en effet, s'effondre. Et il sait qu'il a perdu. D'où le « après, Miguel, c'est ton tour ». Donc, comment, je ne sais pas. C'est-à-dire, lui, il était convaincu de ça, convaincu que jusqu'au bout, il aurait les moyens d'éviter tout ça. Voilà, mais c'est les limites, en effet. Ça nous parle aussi pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une oligarchie, quelle qu'elle soit chilienne, française, états-unienne ou n'importe laquelle, jusqu'à présent dans l'histoire, elle ne s'est jamais laissée détrousser facilement.
Oui, mais juste... Ah, pardon.
Non,
ce que je veux dire, c'est... Effectivement, on ne peut pas dire que c'est la naïveté du côté de Allende. C'est vraiment un coup de poker politique. Mais... Déjà, il avait la création de cet gouvernement civique militaire qui fait, en fait, c'est malheureusement le gouvernement d'Allende qui rentre les militaires dans les gouvernements, et c'est une chose qui les reproche, les cordons industriels.
Absolument. Et c'est lui qui nomme Pinochet. C'est lui qui investit Pinochet de toute sa confiance. Pinochet qui n'est pas le grand penseur du coup d'État, hein, c'est d'autres. Il arrive, c'est la pièce maîtresse qui va permettre à toute la junte de se fédérer, et lui ensuite va s'approprier du pouvoir. Mais en effet, il y a ces contradictions où la phase de tension à partir du printemps 73, c'est qu'en réalité, Allende, il est pris entre la contre-révolution de l'oligarchie et une pression de la base qui réclame qu'on aille plus loin socialement, qui réclame des armes pour se protéger de cet éventuel coup d'État. Et la réponse, la première astuce, en effet, c'est de faire rentrer des militaires et malheureusement de creuser sa propre tombe, quoi. Voilà. Alors maintenant, c'est pareil. On le dit avec le recul. Parce qu'on connaît la fin,
on connaît la fin
des événements. C'est pour ça que de là, nous où on est, Michael par exemple, Louis, donc avec qui a plus d'expérience que moi, on va dire ça comme ça, on lui a fait redécouvrir un des articles qu'il avait écrit en 1972 sur l'unité populaire. Et comme dit Michael, j'écrivais n'importe quoi. Il fait à ce moment-là, j'étais sûr de moi, Il fait malheureusement, les rapports politiques sont plus complexes. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix politique qui n'a pas été fait. Comme tu le disais au début de l'émission, c'est de permettre à cette base de la révolution chilienne d'être armée politiquement et militairement. Et ça, malheureusement, on sait après coup que sans ça, c'était perdu d'avance et ce sera toujours perdu d'avance dans l'histoire.
Rodrigo. En fait, c'est vrai tout ce que tu viens de dire, et juste ajouter que la problématique grande qu'il avait à Allende, c'est qu'il voulait, il était entêté avec ça, c'est faire la révolution par la voie démocratique et pacifiquement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça n'allait pas être possible vu ce qu'il avait en face, quoi. On avait les États-Unis, c'est pas seulement les militaires chiliens, on avait les États-Unis, quoi.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les... les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contrées richesses de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contrées richesses de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers monde, chauffe leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vivre pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout le monde les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contrées richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs des multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne.
Vous êtes donc toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et à l'écoute de l'Hebdo. Donc je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes avec Olivier Besancenot, auteur avec Michael Lowy de Septembre Rouge, le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili, qu'on peut trouver aux éditions textuelles, et Rodrigo qui est animateur de l'émission Terremoto diffusée tous les lundis à 21h30 sur FPP. Alors, à un moment donné, avec Michael, vous écrivez que Salvador Allende et l'Unité populaire sont allés plus loin dans l'affrontement avec les classes dominantes que la plupart des gouvernements progressistes d'Amérique latine. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler d'un exemple à suivre ? Et si on fait de la politique fiction, dans le cas où le rapport de force serait enfin en notre faveur, est-ce qu'on peut s'inspirer au moins d'une partie de cette expérience ? Comment tu vois les choses ?
S'inspirer de cette expérience, oui, puis la méditer, quoi qu'il en soit. Après, une fois de plus, l'histoire se répète jamais à l'identique. Il n'y a pas d'exportation de modèles de toute façon en politique. Allende a pour lui d'être un personnage tout à fait à part, c'est-à-dire un réformiste, réformiste convaincu jusqu'au bout et qui sait pourquoi il l'est, mais qui cherche déjà à appliquer son programme et qui tente d'appliquer son programme et qui fait tout pour appliquer son programme. Ça déjà, c'est assez exceptionnel, parce que moi, à titre personnel, j'ai jamais connu ça, même le début du commencement. Donc, et puis c'est ce cliché qu'on a mis aussi, cette fameuse photo qui est une des plus connues, où c'est un réformiste qui va à la Moneda avec une mitraillette sous l'épaule, qui est une mitraillette. Donc c'est un réformiste armé. Donc c'est là aussi et qui va mourir les armes à la main. Donc là aussi c'est encore une contradiction. Je pense que ce qui est notable et ce qui fait vraiment réfléchir, c'est qu'un processus démocratiquement élu, une fois de plus, tombe toujours sur une oligarchie qui défend ses intérêts. Je disais tout à l'heure, l'oligarchie, historiquement, elle se laisse jamais détrousser facilement. Mmh. Parce que vouloir l'émancipation, une politique égalitaire, c'est forcément prendre à ceux qui se sont gavés sur notre dos. Donc c'est leur retirer des privilèges, des acquis et des profits. Et ça, dans l'histoire, on n'a jamais eu une oligarchie, que ce soit en France durant la Commune de Paris, que ce soit en 1936 en Espagne ou que ce soit au Chili en 1973. une oligarchie qui va avoir l'esprit Coubertin Jeux Olympiques en disant bah, le principal c'est de participer, on a perdu, on vous laisse les clés et faites votre politique et on va pas vous embêter parce que c'est vraiment pas notre genre. Non, l'oligarchie elle réplique en ayant appel à ce qui est prévu pour ça, c'est-à-dire l'appareil d'État répressif qui est né et qui est formaté pour que l'oligarchie la contrôle. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit parce que comment on arrive précisément à protéger notre processus d'émancipation jusqu'au bout, même dans le cadre d'un processus démocratique, on est obligé de se poser la question. Avec le problème, c'est que quelle que soit l'utilisation armée qu'on a même contre l'oligarchie, le problème de la violence, c'est qu'on sait quand elle commence, on ne sait jamais ni quand, ni comment elle se termine. Donc c'est... Mais on est obligé de cogiter ça. Ce n'est pas possible de se dire, à gauche, aujourd'hui, quel que soit le pays où on est, votez pour moi, je ne suis pas un salaud, je ne vais pas vous trahir et tout va bien se passer. Parce que d'abord, on n'a plus confiance à l'individuel et puis parce que en face, on a des forces qui sont organisées. Donc ça doit nous faire cogiter. Ouais.
Rodrigo.
Non, on doit cogiter. On doit cogiter énormément, je pense. Parce que là, il ne faut pas aussi, par rapport à l'Europe, il faut se rendre compte qu'ici aussi, on doit énormément cogiter. Avoir le monde d'aujourd'hui, la situation mondiale par rapport à la montée de cet extrémisme de droite qui va jusqu'au fascisme, ça fait un peu... Il faut se réveiller, quoi.
Mm-hmm. Ça... Rapidement, Olivier, tu as eu des retours sur le bouquin ?
Et
particulièrement au Chili, puisque je sais que
ouais, tu es allé, alors moi, ça, c'est Michael... notre grande fierté, c'est ouais. que donc il est publié au Chili. On l'a présenté avec Michael dans le Café Brerie, c'est, je crois que ça s'appelle, puis dans d'autres endroits, à l'université. Il y a même une traduction là, Michael, qui est un globetrotter, il est au Brésil en ce moment, il y a une traduction au Brésil. Donc c'est un livre internationaliste et nous, on y tient parce que ce qu'on retient aussi de cette expérience, c'est que je disais tout à l'heure, les comités de solidarité avec le Chili en France, c'était 500 ou 600 000 personnes, ce qui veut dire que quand on milite sur des questions internationales, contrairement à ce que certains pensent à gauche, on ne perd pas forcément du monde. Au contraire, ça peut être très mobilisateur. Donc il faut arrêter de penser qu'il faut être rabougri sur des questions qui vont concerner que tel ou tel sujet franco-français pour mobiliser les masses. Non, il y a des tas de générations qui sont politisées sur ces questions-là et l'internationalisme, j'espère, reviendra au goût du jour aussi à gauche.
Et en tout cas, l'oligarchie, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, et comme il a parlé du Brésil encore avec Michael Lowy, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec les Indiens. Et c'est vrai que les oligarques, là-bas aussi, ils ne veulent rien lâcher. Mmh. Et ils veulent continuer à brûler la forêt, à exploiter d'une manière de malade tout ce qui est les terres brésiliennes. Et ça, ce n'est pas possible. Quoi.
Ben, merci beaucoup.
Merci à vous, surtout.
Parce que bon, voilà, c'est terminé. Dans deux petites minutes, juste le temps de rappeler que notre émission sera rediffusée mercredi de 10h à 11h et qu'on pourra la retrouver sur notre site en fin de semaine. Très certainement sur notre site hebdo-julialor.info. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui à 14h30, au départ de la gare du Nord, il y a une manifestation contre le racisme systémique et les violences policières. Et rappeler également que demain, il y a le vide-grenier organisé par Fréquence Paris Pluriel. Ce vide-grenier est organisé de 10h à 18h30 dans la cour de notre radio, au 1 rue de la Solidarité, dans le 19e. Soit au métro Ourcq, soit au métro Danube, pour ceux qui ne connaissent pas le quartier. Voilà. Merci beaucoup à Lucien pour la technique. Merci encore une fois à vous, Olivier et Rodrigo. Merci à toi, Julia.
Merci, Laure. Merci à vous. Merci. Et à la semaine prochaine.
Et que vivent les étudiants et que vivent le changement.
Évidemment. We'll be right back.